tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1920-1930, vous entendrez de Arnold Schoenberg « La nuit transfigurée ».
Accompagner l'audace de la pensée par Ignacio Ramonet. Ève n'aurait jamais dû manger le fruit de la connaissance. Il suffit de voir ce qu'il a produit comme tragédie, de Hiroshima au réchauffement climatique. Le simple bon sens demanderait qu'on en finisse avec cette course folle. Mais c'est à la fois vouloir vainement rabrouiller l'humain, caractérisé par son appétit de questionnement, et confondre confortablement la science et son usage économico-politique. De Prométhée à Faust, les modèles ne manquent pas. Dans la mythologie et la littérature occidentale, d'hommes avides de savoir au point de se damner. La soif effrénée de connaissances a souvent été perçue comme le fondement de la volonté de dominer le monde afin de le transformer. Tous les héros de Jules Verne, par exemple, ont de la science et du progrès une vision farouchement positive et euphorique. Ils souhaitent faire reculer les limites de la liberté, domestiquer la nature, dompter l'énergie, vaincre les éléments et rendre enfin l'homme réellement maître de la planète. Robinson solitaire au milieu des espaces galactiques infinis, le terrien a en effet exploré en tous sens son île sidérale, des abysses océaniques aux cimes himalayennes, du cœur des volcans aux glaces polaires. Il a triomphé de maladies qui l'accablaient depuis l'origine des temps et construit un environnement technique si sophistiqué qu'il peut désormais prolonger ses sens sans limite de distance. Il a inventé des machines à calculer, à raisonner, à voyager, à rêver et pénétrer audacieusement au noyau même de la matière pour y déceler les mystères des énergies absolues. Les chemins de la raison. Cette fantastique impulsion de la science ne s'est pas faite sans combat, ni victime, et les hommes de la Renaissance, Galilée, Tommaso Campanella, qui les premiers en Occident proposèrent de rendre la recherche scientifique indépendante du principe d'autorité imposé par la méthode scolastique, eurent affaire à l'Église et à l'obscurantisme de leur temps. Avec Francis Bacon, Blaise Pascal et René Descartes, s'ouvre l'âge d'or de la pensée rationnelle, débarrassée de la gangue des préjugés prescrits par la religion et les traditions. Pour atteindre la vérité, écrit Descartes, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire de nouveau et dès le fondement tous les systèmes de ses connaissances. Sur cette base, qui fait de la raison le seul guide de l'esprit, se bâtira la philosophie des Lumières et la réflexion des encyclopédistes. Ceux-ci iront jusqu'à rêver d'un gouvernement scientifique des hommes, fondé sur le progrès des sciences de la nature. Ce que réclameront également au XIXe siècle les socialistes utopiques comme Charles Fourier et surtout le positiviste Auguste Comte qui prônait l'alliance naturelle entre science et démocratie. La question de cette alliance se pose de nouveau avec intensité aujourd'hui. En premier lieu parce que le scientisme, cette confiance aveugle et totale dans les possibilités infinies de la science, a conduit au cours du XXe siècle à des bourdes, des excès et des aberrations criminelles. La bombe de Hiroshima, 100 000 morts le 6 août 1945, a soudain fait comprendre que la surpuissance de l'homme démiurge pouvait atteindre des dimensions proprement monstrueuses. De ce jour date un nouveau regard sur la science. De protectrice et émancipatrice, celle-ci va être peu à peu perçue comme menaçante. Une telle méfiance n'est pas nouvelle, mais elle fut longtemps le fait de forces réactionnaires. À partir de Hiroshima, la nature des réserves est tout à fait différente. Car c'est au nom de la raison, du bon sens et dans le souci de préserver l'avenir que l'on va critiquer la déraison scientiste. Le culte irréfléchi du progrès, la religion de la croissance, la folie des recherches délirantes. Alors commence à se poser, un peu partout dans le monde, une question politique majeure, à propos du contrôle démocratique de la science et de ses effets. Question que Dominique Lecourt formule en ces termes, quel mécanisme de décision mettre en place qui permette à l'ensemble des citoyens de faire valoir leur point de vue, non sur la recherche elle-même, mais sur les questions posées par les applications de la recherche ? Le citoyen se demande s'il peut tolérer qu'au nom d'une certaine conception du progrès des sciences, sa liberté, celle de ses descendants et le sort de la planète soient mis en péril. D'autant qu'il n'est pas sans sentir que la réelle complexité des problèmes fournit un excellent alibi aux experts pour éviter la discussion démocratique des décisions. Ainsi s'édifie, peu à peu, le pouvoir de la technoscience au cœur de l'État, mais en marge du vrai débat politique et hors la naturelle curiosité des citoyens.
Peut-on tolérer qu'au nom d'une certaine conception du progrès des sciences, notre liberté et le sort de la planète soient mises en péril ?
Marchandisation du corps humain. Des catastrophes comme celle de Bhopal, Tchernobyl ou Guadalajara ont fait prendre conscience à la collectivité que les risques étaient bien concrets et mortels lorsque, au nom d'une absurde conception du progrès scientifique, le gigantisme industriel, la cécité de l'État et la course au profit se conjuguent dans l'oubli et le mépris de l'homme. Mais c'est dans le domaine de la bioéthique que les frayeurs sont les plus grandes. L'expérimentation sur l'homme et les transplantations font en effet craindre une marchandisation du corps humain, une commercialisation des organes. En France, dès le début des années 1980, des comités nationaux d'éthique pour la protection de la personne ont été mis sur pied afin de veiller à la nécessaire moralisation. Cela n'a pas empêché l'affaire du sang contaminé par le virus du sida et transfusé à des patients opérés ou à des hémophiles. Conscient que toute recherche scientifique mène à l'inconnu et que de l'inconnu on peut tirer le meilleur comme le pire, le gouvernement français a instauré en 1994 les lois dites de bioéthique portant sur l'interdiction du commerce d'organes, sur les modalités du prélèvement de tissus sur mort ou vivant et sur les tests génétiques. Dans le même esprit, une convention européenne de bioéthique a été adoptée en 1997 afin que nul ne puisse intervenir sur le corps d'une personne sans le consentement de celle-ci. Reprendre le contrôle. Ce que le génie génétique soulève de très vieilles terreurs, il a certes favorisé d'incalculables avancées dans la connaissance, la compréhension et l'analyse de l'ADN et dans la génétique des maladies humaines. Mais on le soupçonne de pouvoir favoriser une sorte d'eugénisme actif menant à la sélection des naissances en fonction de critères discriminatoires et raciaux, à la fabrication en série de surhommes, de bébés Nobel et à la création de meilleurs des mondes annoncée dès 1932 par Aldous Huxley. La greffe d'organes aussi a permis, dans le domaine de la santé, de spectaculaires guérisons, mais elle encourage à l'échelle mondiale un infâme trafic. Au début des années 1990, en Colombie, des mendiants et des clochards ont été assassinés par un gang spécialisé dans la fourniture de corps à la faculté de médecine qui prélevait des organes sur les cadavres et le revendait à des cliniques. En Argentine, un grand hôpital psychiatrique a longtemps servi de macabre vivier, un groupe de médecins qui tuait des malades pour leur prélever sang, cornets, reins et autres organes. En autant de néo-obscurantisme et de dangereux retours à l'irrationnel, il importe de réaffirmer la confiance dans la science et le progrès en réclamant le contrôle démocratique de ses possibilités d'asservissement.